Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, je crois. La guerre des mots dans les débats.
La fameuse rhétorique médiatique.
Exactement. Comment on fait quand une discussion, elle tourne au vinaigre? Pour en parler, on s'appuie sur un article de Julien Lecomte. Le titre, c'est « Mener le débat, élément de rhétorique médiatique ».
Et la prémisse est vraiment intéressante.
Oui, l'auteur dit qu'il préfère le dialogue constructif, mais qu'il faut être, réaliste. Dans l'arène médiatique, il faut connaître les techniques.
Pas forcément pour gagner.
Non, c'est plus subtil. C'est pour ne pas perdre, pour ne pas se laisser submerger et reprendre le contrôle.
D'ailleurs, il commence très fort.
Ah oui, il nous met en garde contre une erreur qu'on fait tous. Face à une fake news, notre premier réflexe, c'est de crier « C'est faux ! Fake news !»
Et en faisant ça, on tombe dans le piège.
Voilà. On lui donne de l'oxygène, on la met au centre du jeu, alors que le vrai enjeu, selon lui, c'est de changer de terrain.
Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. L'article nous dit que la qualité des arguments, ça ne suffit pas.
Avoir raison, ce n'est pas assez.
Non. La vraie bataille, elle est ailleurs. C'est une bataille de pouvoir pour le contrôle de l'agenda. Qui décide des sujets? Qui impose son vocabulaire, sa vision du monde? Ce qu'on appelle le « framing ».
Le cadrage.
C'est ça. C'est une lutte pour définir la réalité, avant même que le débat commence.
Et pour bien comprendre ça, l'article nous propose un petit détour, un retour aux sources. Une opposition presque mythique.
Socrate contre les soufistes.
Exactement. Ça peut paraître un peu scolaire, mais c'est une base, je pense, indispensable pour la suite.
Tout à fait. D'un côté, on a les sophistes. Pour eux, le but est simple.
Gagner. Persuader.
Peu importe le moyen. Le seul critère, c'est l'efficacité. Est-ce que mon argument marche? Est-ce qu'il me fait triompher?
Et en face, on a l'image qu'on connaît tous de Socrate.
L'image d'Épinal, oui. Le sage qui pose des questions, qui ne cherche pas à gagner, mais à faire accoucher la vérité.
Son critère à lui, ce serait la validité. Est-ce que l'argument est logique? Est-ce qu'il correspond aux faits?
La vérité contre la victoire, en somme.
Oui, mais c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. L'article ne s'arrête pas à ce cliché. Il va plus loin.
Il gratte un peu le vernis.
C'est ça. Il nous dit que cette image de Socrate, le chercheur de vérité désintéressé, c'est un peu un mythe.
C'est plus qu'un mythe, c'est une illusion incroyablement efficace. Et c'est le point clé. Quand on lit Platon avec un œil critique, on voit bien que le personnage de Socrate, c'est un rhétor redoutable.
Il manipule ses interlocuteurs à fond.
Il utilise l'ironie. Il les pousse dans des impasses, parfois jusqu'à l'humiliation publique. Tout ça en gardant sa posture de « je ne sais rien ».
Ah oui, je vois.
Et voilà la prise de conscience fondamentale. Se présenter comme le camp de la vérité et accuser les autres de faire de la rhétorique, c'est en soi une des stratégies rhétoriques les plus puissantes qui existent.
Le fameux « la rhétorique, c'est toujours l'autre ».
Exactement. C'est un piège.
Et c'est une mise en garde cruciale avant d'entrer dans l'arène moderne. Parce qu'aujourd'hui, sur un plateau télé ou sur les réseaux, on est loin du dialogue athénien.
Très, très loin.
L'article cite des faces qui font froid dans le dos. Il y a d'abord celle d'Hermann Göring, en 1946.
Terrifiant de simplicité.
Il dit « Il suffit de leur dire qu'ils sont attaqués ». Et dénoncer les pacifistes pour leur manque de patriotisme. Et cela marche en tous les pays.
Et pour faire le pont avec notre époque, il y a la citation de Steve Bannon en 2018.
L'ex-stratège de Trump. La véritable opposition, ce sont les médias. Et la manière de s'occuper d'eux, c'est d'inonder la zone de merde.
L'expression est brutale, mais la stratégie est limpide.
Inonder la zone de merde. Ça veut dire quoi, au fond? Le but n'est même plus de convaincre.
Non. Le but est de créer un tel brouillard, un tel chaos, que plus personne ne sait où est le vrai, où est le faux. De rendre la discussion impossible.
D'où l'avertissement de l'auteur, les attaques seront déloyales, les coups seront en dessous de la ceinture. Il faut s'y préparer.
Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on sort du débat de fait, on entre dans un marché où la vérité n'est qu'une opinion parmi d'autres.
On ne cherche plus la vérité, on cherche des vainqueurs.
Voilà. Et face à ça, le défi, ce n'est pas de devenir aussi cynique, ce serait une défaite. C'est d'apprendre à décoder ses coups pour ne pas les subir.
Alors, comment on fait, concrètement? La première étape que l'article propose, c'est un vrai changement de perspective, une règle d'or.
On ne débat presque jamais pour convaincre son adversaire.
C'est une perte de temps, surtout s'il est de mauvaise foi.
C'est une illusion. La vraie cible, le vrai public, ce sont les gens qui nous regardent. Les tiers silencieux.
À la télé, sur les réseaux sociaux.
Si on comprend que l'autre est dans une performance, ses attaques, ses mensonges, ça ne nous déstabilise plus.
on ne le prend plus personnellement.
Exactement. S'énerver, c'est lui donner ce qu'il veut. C'est un aveu de faiblesse. Le public ne retient pas les arguments, il retient qui a perdu le contrôle.
L'article parle aussi du non-verbal, de la dominance.
Oui, cette idée que la dominance, c'est souvent une question de détachement, de sang-froid.
On a tous l'image de ces débatteurs qui semblent imperturbables quoi qu'il arrive.
Et on peut jouer avec ça. Retourner l'orme. L'article suggère des choses presque théâtrales, en fait.
Comme quoi ?
Répondre à une énorme provocation par un petit sourire en coin. Hocher la tête d'un air de dire « je vois bien ton petit jeu », voire même applaudir ironiquement.
C'est risqué, ça ?
C'est très risqué. Il faut bien le faire pour ne pas paraître arrogant. Mais si ça marche, c'est dévastateur. On ridiculise la provocation au lieu de la valider.
Et en gardant ce public en tête, on peut aussi retourner les arguments. L'article donne un exemple de phrase.
Ah oui, celle-là est très fine.
C'est dommage, quand on n'a plus d'arguments, d'être obligé d'en inventer et ce faisant de mentir aux personnes qui vous écoutent.
C'est brillant. On ne lui parle plus. On parle de lui au public.
On le met à distance.
On prend de la hauteur. On commande sa stratégie. Le sujet n'est plus son mensonge, mais sa malhonnêteté et son manque de respect pour l'auditoire. On change complètement le cadre.
Bon, ça nous amène au cœur du sujet. Comment on arrête de subir pour prendre l'initiative ?
Pour imposer son propre cadre.
C'est ça. Et l'article détaille plusieurs outils. Le premier, c'est l'économie de l'attention.
Une idée de l'économiste Herbert Simon. La formule est géniale. Une abondance d'informations crée une rareté de l'attention.
Notre attention, c'est une ressource limitée et précieuse.
C'est le nouveau pétrole.
Et la conséquence, c'est que quand on passe son temps à répondre à un troll, à démonter une polémique...
On lui fait un cadeau. On lui donne la ressource la plus rare. Notre attention est celle du public.
On joue sur son terrain, avec ses règles.
C'est l'effet Streisand. En voulant éteindre le feu, on jette de l'essence dessus. La première discipline, c'est donc de choisir ses batailles.
Ne pas nourrir les trolls.
Voilà. Et la deuxième, c'est de travailler son propre cadre. Le fameux framing. Et là, il y a la formule de Georges Lakoff.
N'utilisez jamais le langage de vos adversaires.
Avec cette image parfaite.
L'éléphant rose. Si je dis « ne pensez pas à un éléphant rose »,
c'est trop tard. Il est dans votre tête. Et en politique, c'est la même chose. Si on passe son temps à dire « non, nous n'allons pas augmenter les impôts », le mot qui reste, c'est « impôt ».
On a déjà perdu.
Précisément. On a accepté le cadre de l'adversaire. L'enjeu, ce n'est pas de dire « votre cadre est faux », c'est d'en proposer un autre.
Proposer son propre récit.
Oui. Au lieu de parler d'allègements fiscaux pour les plus riches, on peut parler de manque à gagner pour les services publics. C'est le même fait, mais l'histoire est radicalement différente.
Et cette idée d'être toujours sur la défensive s'amène à un autre concept de l'article, la loi de Brandolini.
Ah ça, on la vit tous les jours sans le savoir. On l'appelle aussi le principe d'asymétrie du bullshit.
La loi est brutale.
La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sornettes est d'un ordre de grandeur supérieur à celle nécessaire pour les produire. En clair, ça prend 10 fois plus de temps de nettoyer une bêtise que de la dire.
Et ça, c'est la base de beaucoup de stratégies.
De désinformation. C'est un combat asymétrique par nature.
L'article mentionne d'ailleurs le millefeuille argumentatif.
Le guiche galope. On le voit en permanence, sur le climat par exemple. Un contradicteur vous lance en 30 secondes 5 ou 6 énormités.
Les modèles du GIEC sont faux, c'est un cycle naturel, c'est le soleil, et puis les volcans.
Voilà, le déluge. Comment répondre sérieusement à tout ça en une minute ? C'est impossible. Vous choisissez un point, vous avez l'air d'esquiver les autres.
Et pendant ce temps, l'autre a donné l'impression d'avoir une avalanche d'arguments.
Il a gagné la manche au point, même si tout était faux. C'est incroyablement pervers.
Et il y a encore pire, peut-être, l'inversion accusatoire.
Oh oui, le grand classique, accuser l'autre de ses propres fautes.
Des menteurs qui crient aux fake news.
C'est ça. Des régimes autoritaires qui accusent les démocraties de violence. Ça crée une confusion terrible. La victime est obligée de se justifier, de dire « mais non, ce n'est pas moi ».
Elle est déjà sur la défensive.
Et on retombe en plein dans la symétrie de Brandolini. Le piège est parfait.
Et pour finir avec ces tactiques, il y a la stratégie de l'ambiguïté.
Celle-ci est plus insidieuse. Elle joue sur le long terme. Ça consiste à dire quelque chose de borderline, juste à la limite.
Et quand on est crédité ?
On joue les innocents. « Oh, vous interprétez mal, c'était de l'humour, vous voyez le mal partout ». Et on recommence un peu plus tard, en allant un tout petit peu plus loin.
Et à force ?
À force, on normalise l'inacceptable. La fenêtre de ce qui est toléré se déplace petit à petit, sans qu'on s'en rende vraiment compte.
Bon, on a vu tout un arsenal pour déjouer la mauvaise foi, pour reprendre le contrôle, mais l'article se termine sur une question beaucoup plus profonde.
Presque philosophique, oui.
Que faire quand le dialogue est devenu complètement vain?
Quand ça ne sert plus à rien.
Et pour ça, il y a cette anecdote magnifique. Une lettre de Bertrand Russell. Dans les années 30, Oswald Mosley, le leader fasciste britannique, lui propose un débat public.
Et Russell refuse.
Oui, il refuse. Mais sa réponse est un chef-d'œuvre. Il dit, en gros, « Je ne refuse pas par peur ou par impolitesse. Je refuse parce que l'abîme qui sépare nos univers émotionnels est trop grand. »
Aucune discussion ne pourra jamais le combler.
Voilà. Il dit que son énergie, il ne la consacrera pas à discuter avec Mosley, mais à combattre ce que Mosley représente.
C'est vertigineux, cette lettre, et ça nous laisse avec une question finale, une pensée un peu provocatrice.
Oui.
Au-delà de toutes ces tactiques, de toutes ces stratégies, à quel moment la décision la plus puissante, la plus pertinente, est-elle de refuser le débat lui-même?
Ne pas monter sur le ring.
C'est ça, refuser de participer à la performance. Bien sûr, c'est un risque. On peut être accusé de fuir, d'être arrogant.
De refuser le jeu démocratique.
Oui, mais la question reste posée. À quel moment le silence devient-il la réponse la plus éloquente?